Chapitre 24. Lorsque Sanjay et Tanuja prenaient leur petit déjeuner ensemble, ils discutaient ordinairement de sujets divers, en particulier de la nouvelle à laquelle travaillait la jeune femme. Après s'être fait mal la veille en glissant dans la véranda, elle évitait de mâcher du côté droit pour que sa lèvre tuméfiée guérisse plus rapidement. Sanjay lui demanda comment elle se sentait, elle lui répondit qu'elle avait eu de la chance de ne pas se casser une dent. À son tour, elle lui demanda ce qu'il avait à l'oreille droite. Sa question surprit Sanjay qui tâta d'une main le pavillon et s'étonna de constater que le cartilage était en miettes. Il grimaça de douleur et crut un instant que ce n'était pas lui qui maltraitait son oreille, mais un inconnu assis à côté de lui. Il vit soudain dans sa tête une cuisine éclairée par des bougies. Tanuja, debout sur le seuil de la pièce, l'observait avec une mine tragique, avant de disparaître, tirée en arrière à l'aide de la laisse attachée au collier qu'elle portait autour du cou. La vision était si réaliste qu'il en fut choqué. Mais elle s'effaça aussitôt et une petite voix lui susurra que ce n'était rien, rien du tout. Il tenta vainement de faire ressurgir l'étrange cuisine des méandres de son cerveau. Sans doute avait-il esquissé une mimique grotesque, car sa sœur lui demanda ce qui n'allait pas. Il s'empressa de la rassurer, se contentant de s'étonner de son oreille tuméfiée, quitte à se demander s'il ne s'était pas levé pendant son sommeil. Ils parlèrent de somnambulisme, un sujet dont Tanuja s'était servi dans l'un de ses livres. De toute façon, cette blessure à l'oreille n'était rien. Rien du tout. Son petit déjeuner avalé, Tanuja regagna son bureau et se remit à l'écriture de sa nouvelle pendant que Sanjay retrouvait son ordinateur. Manger et discuter avec sa jumelle était en général pour lui source d'inspiration. Mais ce n'était pas le cas ce jour-là. Il avait parlé du bout des lèvres et Tanuja semblait distraite. On aurait dit qu'elle avait un secret à lui révéler sans se résoudre à en parler, alors qu'ils s'étaient toujours montrés d'une franchise exemplaire l'un avec l'autre. Perturbé, il afficha à l'écran les pages écrites en début de matinée et en entama la relecture. Sa prose était si fiévreuse, brouillonne et bizarre qu'il se demanda quel magazine pourrait bien en vouloir. Quant à publier son texte sous forme de livre, aucun éditeur ne publierait ce genre d'élucubration. Tout en s'appliquant à écrire de la littérature, il avait toujours veillé à distraire ses lecteurs, se refusant à écrire des livres invendables. C'est pourtant ce qu'il avait fait ce matin-là avec passion. L'histoire de ce type qui mettait en péril la liberté et l'innocence du monde pour n'avoir pas été capable de sauver un enfant relevait essentiellement de l'allégorie. Il s'agissait d'une fable symbolique, rédigée dans une langue codée que lui-même ne parvenait pas à déchiffrer, alors qu'il en était l'auteur. Certains spirites prenaient ce qu'ils appelaient l'écriture automatique, affirmant que le cerveau était une porte d'entrée accessible aux esprits désireux d'entrer en contact avec les mortels. Le contenu des pages écrites de la sorte ne serait donc pas le fait du médium, mais d'une entité mystérieuse, dissimulée derrière le voile séparant le monde des vivants de celui des morts. Sauf que Sanjay ne croyait pas à toutes ces fariboles. Plus il s'enfonçait dans la relecture de son texte, plus il éprouvait l'envie de poursuivre l'écriture de cette sorte de testament littéraire. Il fut grandement perturbé en tombant soudain sur un passage dont il n'avait gardé aucun souvenir. Les deux principaux protagonistes de son récit, un adulte et un enfant, étaient des fils d'immigrés indiens. À l'heure de sa mort, le petit garçon avait dit « Peri Pona » à cet homme qui n'avait pas su le protéger. Cette expression signifiant littéralement « je touche tes pieds » était réservée aux personnes que l'on respectait et vénérait. Des larmes montèrent aux yeux de Sanjay. L'écran se brouilla devant ses yeux et il pleura longuement, sans parvenir à comprendre à quoi correspondait cette histoire dont il n'avait pas encore écrit la fin. Ses pleurs refusaient de se tarir, tout comme son désir de comprendre. Ses yeux finirent par sécher alors que s'effritait son besoin de pénétrer le sens du texte. Celui-ci ne signifiait rien, rien du tout. Hypnotisé par l'écran, il relut ces lignes dans lesquelles il avait cru discerner un sens mystérieux quelques minutes plus tôt, et ne vit plus qu'une succession de mots provoqués par un accès de fièvre ou une attaque cérébrale mineure. Le phénomène, rare chez les individus de son âge, n'était pas sans précédent. Rien. Ces mots ne signifiaient rien. Rien du tout. Il ouvrit un autre document, celui du manuscrit auquel il travaillait depuis 3 mois. Il commença par en relire le chapitre le plus récent, histoire de se remettre dans le bain. Il rédigea une première phrase, puis une autre, trouva l'ensemble équilibré, et poursuivit la tâche qu'il aimait le plus au monde, et pour laquelle il était fait. Il entama le paragraphe suivant par une métaphore élégante qui lui plut beaucoup et... La sonnerie de son portable interrompit le cours de ses pensées. « Allô ? Oncle Ira n'est pas Oncle Ira, » fit une voix. « Oui, c'est vrai, » répondit Sanjay. « Je vais t'expliquer ce qui se passera ce soir. Et tu suivras mes instructions avec le plus grand calme. Tu n'auras pas peur. Tu n'éprouveras pas le moindre désespoir. Tu m'écouteras sans émotion. Et tu ne remettras pas en cause mes ordres, c'est compris ?»« Oui. » Cet appel terminé, tu ne te souviendras même pas qu'il a eu lieu. Tu retourneras à tes activités, mais tu feras ce que je vais te dire, c'est compris ? Oui. Le correspondant de Sanjay lui donna ses instructions pendant de longues minutes avant de conclure la conversation par la formule « Auf Wiedersehen ». « Au revoir !» dit le jeune homme qui reprit la rédaction de sa jolie métaphore, heureux d'avoir retrouvé la maîtrise des mots.